chronique 1001 pages, les recommandations littéraires que nous propose chaque semaine Frédéric. Frédéric avec nous à distance. Alors aussi peu d'actualité, aussi paradoxal que cela soit, tu nous parles du mot liberté en russe et en russe. Il y a deux mots pour dire liberté.
Oui, cher Nico. Et par les temps qui courent, en Russie, le mot liberté a évidemment, me semble-t-il, une consonance très 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 particulière. Alors il y en a un, c'est Svoboda. J'espère que je prononce à peu près bien, je ne suis pas un spécialiste du russe. Hein. Ça correspondrait à peu près à la notion que nous en avons, nous, à l'idée que nous nous faisons, nous, de la liberté. Quelque chose qui nous permettrait de dire ce que l'on a envie de dire, à aller où on a envie d'aller, et à manifester lorsqu'on a envie de manifester, à penser, à écrire. Évidemment, il faudrait le nuancer avec ce dont on parlait dans chronique la semaine dernière sur Dostoïevski regardant la liberté dans les pays occidentaux. Mais bon, je n'irai pas aussi loin que ça. Et puis il y a un autre mot, volia, qui lui serait une sorte de possibilité de liberté, une disposition de l'âme russe, quelque chose qui, où que vous soyez enfermé, quelles que soient les contraintes, il vous reste ce sentiment, quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Vers où s'élever, quelque chose que peut-être, en tant qu'occidental, on n'est pas vraiment, vraiment capable d'appréhender. En tout cas, les deux notions existent, et c'est ce que nous explique Benoît Vidkine dans son bref récit, roman, publié aux éditions des Arènes et intitulé « L'Enclave ». Benoît Vidkine est non seulement un très très bon romancier, mais c'est aussi un excellent journaliste, correspondant du Monde à Moscou, qui doit être particulier quand même, surtout en ce moment, toujours, et il est lauréat du prestigieux prix Albert Londres en 2019. Dans l'enclave, il nous parle d'un territoire très particulier, appelé Kaliningrad, coincé entre la Lituanie et la Pologne. Ce territoire, qui était la Prusse orientale, et qui est donc devenu soviétique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se retrouve aujourd'hui, puisque les deux pays, la Lituanie et la Pologne, sont, croisons les doigts, pour un certain temps encore, plutôt indépendants, eh bien, un territoire coupé de tout. Et un accès à la mer. C'est vous dire si les Russes ne plaisantent pas trop avec cela. Dans ce territoire, un jeune homme, en 1991, c'est très important la date, sort de prison, il y est resté 6 mois, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais ça ne doit pas être une bien grosse bêtise. Là, il y a croisé un vieux, c'est comme ça qu'il s'appelle, puisque lui-même se fait appeler le gris, ou on l'appelle ainsi. Le vieux l'a plutôt aidé, il a demandé de faire quelque chose en sortant de prison, il n'est pas certain qu'il le fasse. Dans ce grand trajet, dans ce périple qu'il va faire en sortant de prison, pour retourner jusque chez lui, il va croiser un philosophe, il va croiser un jeune garçon, Ernest, une sorte de petit prince, qui regarde comme le petit prince les étoiles. Il va se comporter à peu près comme Jean Valjean, en allant voler une chaînette en argent, quelques roubles, du lard, de quoi manger, non pas chez un curé, mais dans des praticiens d'une autre religion, le communisme, à l'époque, ou de ce qu'il en reste. Et dans ce kolkhoz, le directeur nous fait bien penser, lui, à un autre roman, tout aussi célèbre, puisqu'il voudrait que tout change pour que rien ne change. N'est pas un guépard, il s'occupe plutôt de vaches. 1000 vaches, pour être très précis. Dans ce périple, dans Kaliningrad, dans cette Lituanie qui est là juste au bord, dans ce moment où tout est en train de changer extrêmement vite, on a presque déjà viré Dire Straits qui sont à peine arrivés pour s'intéresser à Duran Duran, et où on a presque aussi vite virer peut-être la liberté pour tout de suite s'intéresser à la consommation. On voit le gris parcourir très précisément ce territoire jusqu'à un chapitre 12 que je ne vais pas trop dévoiler, mais qui est vraiment extrêmement réussi, où un vieil Allemand, Joseph, revient dans sa maison et rencontre Igor, qui la possède désormais, qu'il a choisi parce que lui, il a eu le bon goût de ne pas attendre que les Russes construisent, les Soviétiques construisent quoi que ce soit. La maison allemande était de bien meilleure qualité, bien mieux isolée et tout ça. Ils vont trouver 2 trésors, un enfoui, retrouvé, et un autre qu'ils vont créer ensemble, là, tous les deux. Je vous invite à compléter cette lecture par une excellente bande dessinée publiée aux éditions Les Arènes également. Ça s'intitule Wagner, l'histoire secrète des mercenaires de Poutine, signé Mathieu Olivier, Benjamin Roger et Thierry Chahan. Dans ce gros album, vous allez vraiment regarder la constitution de cette si particulière armée, appelons-la comme ça, ce groupe Wagner, que la diplomatie française a regardé tout au départ, mais sans en prendre vraiment conscience et sans être vraiment conscient de l'ampleur du problème. Prigogine n'est plus, il a essayé de prendre l'avion, ce qu'il ne faut pas trop essayer de faire lorsqu'on a déplu à M. Poutine. En attendant, en refermant l'enclave, il est certain qu'on regarde la liberté, qu'on l'écoute un petit peu différemment. Et je crois que c'est ce qui intéressait beaucoup Benoît Wittkin. C'est publié, comme je vous le disais, aussi aux Arènes. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric. Prochaine chronique 1001 pages la semaine prochaine, toujours sur Radio PFM 99.9. C'est à retrouver aussi en ligne radiopfm.com.